mettons des mots. Je suis Thomas Louis et pendant toute la durée du festival, j'animerai ce podcast. Ce magazine, fait d'entretiens avec les écrivains et les comédiens invités, sera l'occasion de les rencontrer plus longuement, avant ou après leur lecture et performance. Allez, venez avec moi, je vous emmène à Toulouse. Nous voici donc réunis à Toulouse, fondus dans l'ambiance de l'après-spectacle. Il y a Eurodance qui vient de se dérouler à la Chapelle des Carmélites. Et pour inaugurer cette série d'entretiens, mon premier invité n'est autre qu'Aurélien Bélanger. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Alors Aurélien Bélanger, vous êtes au Marathon des mots cette année pour plusieurs choses. Premièrement, pour échanger autour de votre dernier livre, Télé-réalité, paru en mars dernier chez Gallimard, dont on va un petit peu parler. Mais vous êtes toujours aussi là pour Eurodance, une création qui est tirée de votre livre éponyme, qui est paru en 2018, aux éditions Gallimard également. Et cette création... Commençons par là, cette création, elle se jouait les 23 et les 24 et elle racontait, pour être bref, l'histoire de ce mouvement musical des années 90, mis en perspective avec la construction européenne. Soyons concis, c'est une création qui a eu lieu ici, à la Chapelle des Carmélites, avec Nama Keita et Jimmy Bourri à la lumière et au son, si je dis pas de bêtises.
C'est exact.
Alors ça, c'était ce soir... Mais j'avais très envie de le souligner. Est-ce que ça s'est bien passé déjà?
Oui, très bien. Ouais. C'était un projet qu'on devait faire en 2019, donc que j'avais cru qu'on n'allait pas pouvoir faire, et finalement, j'étais très content que ça ait lieu.
Vous l'aviez pensé pour la scène, non, ce théâtre? Ce spectacle, pardon.
En fait, à la base, c'était une commande de Julien Gosselin pour le spectacle de fin d'études des étudiants du TNS en 2016 ou 2017. Ça s'appelait 1993 et finalement j'en ai pris parce que c'était en deux parties. Il y avait une partie où c'était plus de l'écriture plateau et une première partie qui était très élégiaque, et j'en ai fait un livre en fait en sortant ça du spectacle et que j'ai rebaptisé Eurodance, mais c'est à peu près le texte qui avait été lu à l'époque.
Ok, donc ça avait à peu près toute sa place, surtout sur une scène aujourd'hui.
Ouais, c'est vraiment un texte de grande frontalité comme ça qui est une élégie qui est pas ironique, mais qui est une sorte de vision de l'Europe, mais qui a une ambiguïté parce qu'on sait pas exactement quel est mon point de vue. Et je l'avais écrit en parallèle à un roman qui s'appelait Le Continent de la douceur, qui est une réflexion sur l'Europe. Donc là, c'était la partie où je tirais le plus vers l'élégie. Qu'est-ce qu'avait été l'Europe à son apogée, telle que je l'avais vécu enfant, les années Maastricht, les années 90, ouais.
Ouais, avec cette eurotunnel dont il est question dans le texte. Et donc, il s'agissait d'une lecture. Et je me demandais, est-ce que vous lisez ce que vous écrivez, quand vous l'écrivez?
Non, alors le problème, c'est qu'à chaque fois que je lis, c'est très rare, je vois un problème que j'ai laissé passer, que j'aurais pas dû... Enfin, c'est vraiment un... Plus le temps passe, plus je me dis que c'est un problème de pas lire, parce que c'est vraiment... Il y a quasiment que comme ça qu'on voit des imperfections qui nous échappent.
Selon vous?
Bah, mes livres sont hyper relus par d'autres que moi. Enfin, c'est vraiment... Le travail est vraiment très bien fait. Et à chaque fois que j'ai fait une lecture à l'oral, j'en ai encore fait une l'autre jour, en Dordogne, c'est rien, c'est une virgule mal placée, un truc qui me choque. Et là, pareil, ce soir, je trouve que l'adjectif fébrile, je l'utilise deux fois, je trouve que la deuxième fois est en trop. Et ça, sans l'oralité, j'ai pas d'autre moyen de le voir. Donc, peut-être que faudrait que je mette plus d'oralité dans mon travail.
Il y a quand même toute petite satisfaction, non, de voir son texte adapté malgré peut-être le caractère perfectible de ce que vous venez de dire.
Bah, c'est oui, effectivement, et puis c'est vraiment adapté strictement, parce que c'est comment est-ce que il s'agit pas d'une adaptation cinématographique, là c'est mieux, parce que c'est une adaptation qui est dans la qui se situe au même niveau que le texte, et donc non, c'est super, et en plus en plus, je suis pas loin de penser que c'est un texte qui pourrait pas être plus lu, plus diffusé, mais je sais pas, il est plus court que mes romans et je le trouve plus frontal, et il définit, si on me demandait quelle était l'esthétique que je défendais, je pense que je dirais, écoutez Eurodance, c'est ce que j'ai fait de plus ressemblant à ce que j'essaie de faire.
Ah, ok, c'est intéressant. Et alors Eurodance, c'est la contraction de Europe et de Dance, donc l'Eurodance, c'est une espèce de style musical assez rythmé des années 90 que vous rangez dans un écho avec le rêve européen de l'Europe d'une génération, disons ça grossièrement. Et si on le met en perspective avec votre dernier roman Télé-réalité et avec quelques-uns de vos ouvrages, je crois, ce qu'on voit, c'est que finalement, vous vous intéressez assez à ce qu'on devient ou à ce qu'on est devenu collectivement. C'est un angle qui vous porte en tant qu'écrivain ?
Bah là, en l'occurrence, il y a peu de mouvements culturels transeuropéens. Et en fait, si on fait la liste, il y aurait la peinture à l'huile, la Renaissance, ouais, le gothique, quelques mouvements d'avant-garde. Je sais pas, on va dire Fluxus, le surréalisme, peut-être le situationnisme. Et dans son genre de truc vraiment très pop et vraiment plutôt de basse culture, le Rodin, ça a été un mouvement transeuropéen.
Ouais.
Donc il y a quelque chose comme ça, et c'est amusant parce que le Rodin, un de ces lieux, ben je cite Twin Limited, le duo néerlandais, et ça vient des Pays-Bas, comme en démol, comme Big Brother, comme la télé-réalité. Donc il y a des structures comme ça européennes qui subsistent.
Ouais, une espèce, oui, j'ai dit collectif, mais disons ça. Et donc précisément, Aurélien Bélanger, vous êtes aussi à Toulouse pour discuter avec les lecteurs, les lectrices, les libraires et avec les journalistes, tiens, de Télé-réalité, votre dernier roman. Alors pour tenter de le résumer le plus brièvement possible, Télé-réalité, c'est l'histoire de Sébastien Bitreau, un garçon qui est subjugué par la télé, qui monte à Paris, comme on dit, et qui va faire son entrée dans le monde des audiences, de la télévision, de tout ce merveilleux univers. Il apprend peu à peu, et il en ressort quelque chose de lumineux. Le pouvoir se focalise davantage vers ceux qui dirigent que vers ceux qui incarnent la télévision. Alors, d'aucuns reconnaîtront le double allégorique de l'entrepreneur, disons ça, Stéphane Courbis et de son associé Arthur. Mais après ce petit résumé lacunaire, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que tous les éléments dont il est question dans Télé-réalité, c'est aussi et surtout une histoire, des petits points de repère historiques qui marquent un siècle, disons, glorieux de la télévision. En quoi ces moments, en quoi ces événements, ces marqueurs font une société ?
Bah, la télévision est une histoire commune partagée parce qu'il y a eu très peu de chaînes et très regardées. Donc, c'est-à-dire qu'un événement télévisuel avait plusieurs millions de téléspectateurs spontanés. Mmh. C'est-à-dire une vedette télévisuelle avait des yeux dirigés vers elle. Le type de célébrité qu'a procuré la télé à son apogée, donc on va dire la télé de la fin des années 90, n'a jamais été atteint et on le retrouvera probablement jamais parce qu'il y a maintenant une segmentation de l'audience. Donc, la télévision est vraiment, c'est une lecture traditionnelle en philosophie de traiter le capitalisme comme un rêve ou un cauchemar réveillé, etc. Mais la télévision a vraiment eu quelque chose de cette teneur d'un rêve collectif qui a été fait. Et ce qui est amusant, c'est qu'il en reste des flashs. Si on retrouve des vieilles cassettes vidéo et qu'on des vieux magnétoscopes et qu'on les rediffuse, ce qui va nous sembler l'objet artistique le plus beau, bizarrement, c'est les publicités. Alors que jamais les publicités n'ont été regardées comme des objets artistiques, mais il passe quelque chose à la fois, si on veut être très immatériel, de l'ère du temps dans les publicités, si on veut être très marxiste, du processus dialectique de la civilisation qui a été incarné comme ça. Et c'est des choses comme ça que j'ai essayé de choper, de cette espèce d'hallucination collective qui a été la télévision, avec cette idée qu'on sait pas grand chose. En dernier lieu, on sait pas grand chose, mais par l'esthétique, on peut, en tournant un peu les kaléidoscopes de l'esthétique, on peut peut-être discerner des choses, ouais.
Alors, il y a toujours eu cette tradition d'écrire sur la télé, mais c'était souvent assez négatif, disons, et là vous racontez ce qu'on appelle aussi les mass médias. Et parmi tout ça, il y a la télé-réalité avec Loana et compagnie, qu'on connaît tous et toutes, et qui marquerait peut-être avec le Loft un passage, je sais pas, une espèce de nouvel âge de la télévision.
C'est le moment où la télévision invente en tout cas son propre art, parce que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, même le jeu, ça existait sous d'autres formes, il y avait des jeux radio, etc. Ouais. Tout ce que la télévision a fait, elle l'a emprunté aux autres arts, la télé-réalité, c'est vraiment l'art de la télévision, c'est quelque chose qu'elle a inventé. Et qui est quelque chose de très mystérieux, qui est devenu le genre dominant en 20 ans. Et on se souvient encore que c'est très polémique, mais alors du coup, on en oublie de voir que ça a gagné. Esthétiquement, la télé-réalité a gagné.
Ouais. Et ce qu'il y a aussi, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Cette télé-réalité, comme vous la décrivez, elle m'a fait penser à un concept de théâtre de Bertolt Brecht, qui est l'effet de distanciation. Alors en allemand, le Verfremdungseffekt. Ou en très bref, l'idée est de réduire la passivité du public. Le public doit savoir qu'il est au théâtre. En bref, qu'il y a des mécanismes derrière. Et avec la télé-réalité, c'est un peu pareil. Tout se sait. Les gens qui font partie de cette télé-réalité sont même plus vraiment des cobayes, mais ils sont conscients de leur image aussi et ils la fabriquent précisément. C'est ça aujourd'hui.
Disons qu'elle occupe quelque chose qui a un peu disparu, qui est la place du théâtre populaire, le grand théâtre populaire. Contrairement à ce qu'on pense paresseusement, n'est pas le théâtre de boulevard. Le théâtre populaire, en fait, c'est strictement la télé-réalité. Il y a effectivement un effet intéressant par rapport à ce que vous dites de distanciation qui est très vrai. C'est la télévision historiquement cache qu'elle est une télévision, c'est-à-dire on cache les producteurs, on cache les projecteurs, on cache les caméras, etc. La télé-réalité va en faire un objet de spectacle quand Love Story se lance. M6 filme volontairement des caméras et des micros, alors que la caméra et les micros, qu'ils existent, étaient une sorte de secret. Donc on va les montrer et on va même aller encore plus loin, on va montrer la régie où se fabriquent les images, et encore plus loin, on va faire exister la prod. La prod avec un P majuscule, entité presque divine, mais qu'elle a, normalement, la prod, c'est du côté du sale, de l'argent, etc. Là, on l'a fait rentrer sur scène. Donc, je pense que la télé-réalité est un moment important dans la longue histoire du théâtre.
Ouais, et chaque protagoniste, j'allais dire justement, ces personnes se donnent des rôles également, et cette popularité de figure, comme précisément Stevie ou Loana, c'est ce que pourrait incarner viscéralement un média de masse, c'est savoir ce qui se passe à la télé, même si on la regarde pas, par exemple.
C'est quelque chose, en tout cas pour ça, qui relève de la télé-réalité et qui déborde, qui déborde même son champ strict. Je pense à les émissions de Cyril Hanouna, par exemple, où les personnes qui commentent, où le journaliste lui-même, on lui prête une vie privée, on lui prête lui-même des caractéristiques. Donc il y a quelque chose, les enjeux de l'époque traversent cette chose, je pense.
Vous regardez quoi, la télé, vous ?
Je regarde très peu la télé, je regarde Zemmour sur CNews avec une fascination sordide. Je regarde Cyril Hanouna au maximum, j'essaie, parce que je avec toutes les limitations que je mets, je pense que c'est un génie de son médium, en tout cas c'est probablement le meilleur animateur. Depuis Ardisson à un moment a été un très bon animateur, je pense que c'est clairement Hanouna qui a pris la relève. J'aime bien les télé-réalités un peu spécialisées, genre concours de barbecue, concours de piscine, les aquariums de l'extrême, les déménageurs de l'extrême, ce genre de choses.
Ok, ouais, sur des chaînes
lointaines.
Loin. Canal, certainement.
Ouais. Exactement.
Ok. Eh ben, éteignez tous vos écrans et ouvrez donc Télé-réalité d'Aurélien Bélanger, publié chez Gallimard, et Eurodance, publié également chez Gallimard. Merci beaucoup, Aurélien.
Merci beaucoup.
Et magie du podcast, nous quittons Aurélien Bélanger et nous voici maintenant en plateau avec Judith Pérignon à l'hôtel du Mai. Bonjour Judith.
Bonjour.
Alors Judith Pérignon, vous êtes journaliste, vous êtes romancière, vous êtes essayiste. On peut dire que vous pratiquez l'écriture dans tout ce qu'elle a de plus déclinable. Et si on vous connaît pour tout ça, on est ensemble aujourd'hui pour parler de votre dernier roman, Là où nous dansions, paru en janvier dernier aux éditions Rivage. Les jolies couvertures violettes. Vous l'avez présenté au festival à la librairie de l'Union, Les Passantes. Et une lecture en a été faite aujourd'hui, vendredi, à la salle du Sénéchal. Ce roman est ce qu'on pourrait qualifier de roman choral, qui prend pour sujet de base la ville américaine de Détroit, et qui s'étale sur trois périodes. Pour nous la raconter, la première période s'ancre dans le début des années 30, juste après la Grande Dépression de 1929, où l'esprit est très dur. La deuxième se passe dans les années 60, une période où on note un vrai pic de l'industrie automobile, dont précisément Détroit a été la capitale. Et une dernière période où c'est le déclin. Le déclin qui commence dans les années 70 jusqu'à représenter cette ville en faillite dans les années 2000. Trois époques donc, pas chronologiques, mais plutôt qui s'entrelacent au même titre que les destins des personnages. Et ce qu'on comprend, Judith Pérignon, en lisant ce livre de manière très synthétique, c'est que Détroit a d'abord été une vitrine américaine. Elle a été le fleuron de l'industrie automobile, le berceau de la Motown, jusqu'à devenir le cauchemar du pays. C'est ça, en fait, elle raconte à elle seule l'essor industriel d'une ville américaine et sa chute.
Exactement. Elle a été la vitrine du rêve américain et elle est devenue la vitrine du cauchemar, de toute sa violence économique, sa violence raciale. Et souvent, Détroit a été utilisé comme image de cette fameuse crise des subprimes de 2008. Et on s'est dit, là, Détroit s'est effondré en 2008, alors qu'au fond, c'est un très lent processus. Et je voulais expliquer un peu, à travers la vie de ces gens, ce processus de délitement d'une ville, qui est bien plus compliqué qu'une crise économique, qui nous permet de ne pas se poser de questions, au fond. Alors qu'il y a plein de questions à poser derrière cette histoire.
Pas mal, ouais. Alors vous, Judith Pérignon, vous avez découvert Détroit En travaillant dessus en tant que journaliste pour la revue 21, vous vous intéressiez, je crois, au jardin de Détroit. Alors, comment ce roman est-il arrivé? Pourquoi finalement est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui?
Parce que la première fois que j'y vais, effectivement, pour la revue 21, pour écrire sur les jardins de Détroit. Les jardins de Détroit, c'est des potagers, parce qu'il n'y avait plus de magasins, il n'y avait plus de quoi acheter des produits frais, donc les gens cultivaient. Et c'est un choc. Au bout de, je ressens un choc très fort en débarquant, mais les deux premiers jours, quoi, il y a quelque chose de l'ordre, de tout ordre, je dois dire, affectif, visuel, politique. C'est comme s'il fallait que j'arrive là pour répondre à beaucoup de questions. J'ai toujours été attirée par la question américaine.
Ouais.
Mais là, dans cette ville qui est à l'arrêt complètement, 2010, on peut être tout seul sur des grandes artères. Détroit était aussi grand que Chicago. On peut être tout seul, comme dans un mauvais film ou une dystopie. Et après, on rencontre les gens. Et je me suis attachée tout de suite aux gens. J'avais l'impression de retrouver, justement, moi qui consommais depuis l'adolescence beaucoup de romans américains, j'avais l'impression que tous les gens que je rencontrais, notamment dans les jardins, beaucoup de femmes afro-américaines, hein, c'est une ville afro-américaine à 83%, sortaient des romans que j'avais aimés. Et voilà, donc ce choc m'a amené forcément à ajouter ma pierre.
Ouais, à vous poser des petites questions d'ordre littéraire.
Voilà.
Et dans les années 50, précisément, Détroit, c'était la cinquième ville américaine. Et vous êtes arrivé en 2010, il me semble.
Ouais.
Et vous avez senti très vite ce potentiel romanesque, comme vous venez de le dire. Et on est d'accord que, au-delà des recherches dans les archives de la ville, etc., vos personnages sont tous nés de vraies personnes que vous avez vraiment rencontrées.
Oui, la plupart, oui. Après, c'est des croisements. Le roman fait son travail, mais
la fiction fait sa petite affaire.
Exactement, mais... elle fait sa petite affaire, comme vous dites. Mais effectivement, il y a chacun des personnages s'ancre quelque part dans une rencontre que j'ai pu faire. Oui.
Ouais. Alors là où nous tensions, c'est aussi et plus précisément l'histoire d'un quartier de Détroit qui n'existe plus. Le Brewster Project, le Brewster Douglas Project, c'est un lieu qui a été détruit en 2014. C'est le premier logement social pour Afro-Américains qui a été financé sur fonds fédéraux pendant le New Deal lancé par Eleanor Roosevelt dans les années 30. Et c'est surtout là où a grandi une forme d'espoir chez les jeunes et notamment chez les musiciens de la Motown dont je parlais tout à l'heure. Donc la Motown, ce sont les Supremes, c'est la famille de Stevie Wonder, enfin c'est que des illustres inconnus. et vous prenez comme point de départ la mort d'un jeune street artiste dans ce quartier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bouillonnement musical de la fin des années 50, de ces ouvriers des usines qui chantent le soir dans les bars, de ces groupes qui se forment dans les escaliers, de cette génération qui espère en fait dans le Brewster Project?
Oui, alors effectivement, bon, les Noirs américains ont toujours chanté. On connaît ces chants d'église, ces gospels, puis les chants de coton aussi. Hein, ils chantaient. C'était une forme d'affirmation douce par le chant des esclaves. Mais donc, c'est quelque chose qu'ils se transmettent de génération en génération. Mais comme là, effectivement, dans ces années 50, 60, c'est le moment où Détroit est la cinquième ville américaine et les Afro-Américains, c'est là où ils vivent le mieux aux États-Unis. Leur pouvoir, il y a des classes, on voit une bourgeoisie noire, une aristocratie noire, des ouvriers noirs. Et effectivement, on va à l'usine, mais on chante le soir. C'est John Lee Hooker. C'est John Lee Hooker qui naît là, dont la musique naît là. Et donc, quand on arrive dans les années 60, ben, y a même des générations qui commencent à envisager avoir une vie nettement plus légère que leurs grands-parents, leurs parents, et à faire carrière. C'est un moment où la musique noire est de plus en plus prisée par les blancs. Et donc, dans cette ville qui est toute industrie, va naître une industrie musicale. Il semble qu'il y a un vivier, il y a de ces espoirs, il y a une génération qui se met à chanter, et il y a Berry Gordy qui fonde la Motown et qui va leur promettre non pas tous d'être des stars, mais un avenir dans la musique. Et voilà, et on danse encore sur tous ces jeunes qui ont grandi dans le Brewster Project notamment.
Là où nous dansions. Du coup, tout ça, c'est aussi le reflet d'un certain espoir, d'une certaine croissance aussi.
Oui, il y a du travail. Il y a aussi une affirmation. Il y a tous les quartiers qui ont été rasés. Parce que justement, tout a été rasé aussi parce qu'il y avait cette affirmation, cet espoir. Et qu'à un moment, ces gens-là étaient un peu trop fiers. Cette communauté noire qui possédait aussi, il y avait plein d'épiceries. Voilà, ils possédaient leur commerce, ce qui était nouveau, ce qui n'existe encore plus aujourd'hui. Et donc, il y a un moment, il a fallu arrêter ça. Ils étaient près du centre-ville. Ils avaient même potentiellement ils voulaient faire comme à Harlem, avoir un maire à eux. Et donc, tout a été fait pour arrêter cet essor, cette fierté trop forte. Et donc, avant même qu'on rase le booster, on a rasé ce quartier incroyable qui était au pied, Hastings Street. Il y a des grandes boîtes de jazz. C'était un vrai beau quartier noir à la Harlem. Et ils ont fait passer l'autoroute sur ce quartier, justement pour arrêter cet essor, cet espoir des Noirs qui doivent rester aux États-Unis, le bas de l'échelle. C'est important dans cette classification, cette sociologie américaine. Ouais. Donner l'impression aux petits blancs qu'il y a toujours pire qu'eux, c'est être noir.
Alors ici, votre écriture, et vous m'arrêterez si je me trompe, elle est assez empreinte de littérature américaine, j'ai trouvé. Il y a un vrai paysage, évidemment, une vraie époque, un vrai arrière-plan. Est-ce que vous avez eu consciemment cette référence au roman américain ou est-ce que je me trompe totalement ?
Consciemment, non, parce que je voulais éviter de me dire « je vais faire un roman américain ». J'ai vraiment fait essayer de travailler en littérature sur ce choc que j'ai eu en allant là-bas, et sur ces gens, ces rencontres, mes émotions et tout ce que j'ai compris et que je voulais transmettre. Après, que le roman américain ait déteint sur le mien, c'est sûr, parce que bon, j'en ai lu et j'en lis beaucoup, mais parce que le paysage, les références fonctionnent, en fait, nous donnent, tissent quelque chose, une langue et un paysage très américain.
Ouais. Mais vous le dites d'ailleurs que ça viendrait de l'enfance, de l'adolescence, cette fascination. Pourquoi ce pays vous fascine autant ?
Il y a plein de petites raisons qui se sont additionnées. J'ai d'abord... Okay. Je crois, gamine, j'ai un oncle américain, j'ai un oncle d'Amérique que j'allais chercher chaque année. Voilà, il vit toujours à San Francisco et c'était un personnage pour moi très important quand j'étais gamine, qui sont type gay, qui rentrait des États-Unis sans le stress des parents. Il y avait quelque chose de, qu'est-ce que c'est que cet adulte si sympathique ? D'où vient-il ?
C'est sympathique, ok.
Et puis la musique évidemment et puis la rencontre avec la littérature américaine. Je dirais presque plus que le cinéma que j'aime beaucoup, mais il y a quelque chose dans l'intimité, dans la lecture, où je me suis projetée depuis Steinbeck, Faulkner, on avance avec ses livres, jusqu'aux écrivains Toni Morrison, Roth, j'ai eu l'impression, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que tout à coup le livre a pris forme quand je suis arrivée à Détroit.
Il y a des écrivains de Détroit que vous connaissez ou peut-être que vous aimez particulièrement ?
Il y a ce grand livre de Jeffrey Eugenides, Middlesex, c'est lui qui avait écrit Virgin Suicide aussi.
Ouais.
Il a grandi à Détroit, justement, à Grosse Pointe, juste dans la banlieue un peu chic de Détroit. Et il a fait un très grand livre sur Détroit qui s'appelle Middlesex, que je recommande.
Okay. Ouais. Alors le roman se termine aujourd'hui et Détroit aujourd'hui, ça ressemble à quoi ?
Alors ça ressemble à une ville, justement dans cette année 2013 que je traite dans le livre, c'est là où la ville a été mise en faillite, la bankruptcy. Ça avait fait les titres dans le monde entier, mais au fond c'était pas un effondrement de la ville, elle était effondrée depuis longtemps. C'était une reprise en main, c'est une liquidation judiciaire en fait. Et ça voulait dire que derrière on allait apurer les dettes, rendre les banques allaient s'y retrouver, et ça veut dire que les investisseurs arrivaient, ils sont là. Et ils sont... Détroit maintenant, c'est une gentrification assez violente. Moi, je l'ai connu en 2010, un centre-ville vide, aux grands immeubles murés. Et aujourd'hui, un loyer dans le centre-ville de Détroit, c'est très cher.
Okay.
C'est une ville qui se reconstruit, mais pour une population qui arrive, pas pour la population qui est restée.
Pas pour celle qui est là, oui.
Et c'est tout le problème. Donc, c'est une ville qui reblanchit, puisque dit richesse, dit plutôt les blancs.
Okay.
Donc, c'est une ville qui potentiellement peut réaffronter des problèmes de l'ordre des émeutes. Il y a presque deux villes maintenant.
Ouais.
Il y a deux villes.
L'avenir nous le dira.
Voilà.
Alors, ce livre mélange l'intime, mélange le collectif, les rapports de domination. Il brise les images aussi d'une ville qu'on voyait partout. Est-ce que on peut dire que c'est un objet, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre politique dans l'absolu ?
Ouais.
Ouais.
Ouais, parce que j'ai voulu, avec tout ce que j'ai compris là-bas du délitement de cette ville, des étapes, montrer aussi que c'était un délitement organisé, justement. C'est pas, la crise économique nous permet toujours de s'être affiché comme une fatalité, une tempête, et puis on n'a pas à se poser de questions sur ce qui s'est passé. Et moi, ça fait 10 ans que je vais à Détroit, que je parle aux gens, et que je vous parlais d'un autoroute, ces schémas urbains ont été faits pour effectivement arrêter l'essor d'une communauté.
Ouais.
On a demander aux Blancs d'aller vivre un peu plus loin, justement pour laisser cette ville trop fière, trop syndicale, trop demandée. Les premières délocalisations, c'est dans les années 50, et c'est juste dans l'état d'à côté, les entreprises disent aux gens, ok, on vous embauche, mais pas de syndicat. Ouais. Alors que Détroit était un tel bouillonnement depuis les années 20, c'est une puissance syndicale, de colère, de mobilisation très forte qu'on sent encore quand on parle aux gens et que moi j'aime entendre. J'aime entendre l'écho de ces mobilisations qu'ils ont eues, mais ils l'ont payé, ils ont été punis pour ça. Ouais. Et je voulais raconter ça, que l'effondrement a été aussi organisé.
Et vous l'avez fait très bien. Donc si vous voulez vous en savoir plus sur l'histoire de Détroit, plongez-vous dans ce roman de Judith Pérignon, Là où nous dansions, disponible aux éditions Rivage. Merci beaucoup Judith Pérignon.
Merci beaucoup.
Et quant à nous, on se retrouve demain avec de nouveaux et de nouvelles invités sur la web radio du Marathon des mots. Bon festival.